il y avait Contador et Quintana qui s'accrochaient un petit peu. Ouais. Ça me tarde de voir cette année le parcours, ce que ça va donner, les coureurs qu'il va y avoir, sachant qu'on aura sûrement des coureurs ici, des locaux. Donc, ouais, 2016, il va falloir attendre les tours qui vont arriver, les tours sympathiques au niveau de l'Europe. Quoi.
Alors, comme Paris sur Véloclub.net, il y avait surtout, c'est vrai qu'on parlait de Quintana. Vainqueur du Tour de France, et de la Vuelta, Quintana qui gagne. Bon, c'est un peu le coureur que beaucoup aimeraient voir gagner, qui a échoué face à Froome l'an dernier, peut-être parce qu'un peu trop frileux. Et cette année, on a envie de le voir gagner. Et au contraire, plusieurs paris qui parlent, la Sky qui gagnera pas ci, qui gagnera pas là. Bon, moi, j'ai parié personnellement qu'il ne gagnerait aucun grand tour. On verra. Je prends des risques. Après,
il y en a combien de lyriques quand même sur les sur les pourcentages. J'ai regardé, il y en a certains qui sont un peu lâchés quand même.
J'ai pas tout noté, mais et encore, ce topic, ça allait encore parce que sur l'autre forum de la petite reine sur Vélocom.net, il y en a un autre où c'est encore pire. Mais sinon, pour parler de qu'est-ce qu'il y a eu, il y en a qui sont sûrs que Landa va écraser le Giro, d'autres qui pensent qu'il va absolument rien faire de l'année. Donc chaque fois, c'est assez, assez large quoi, comme pronostic. Alors, est-ce que vous en avez là, pour la saison 2016?
Moi, j'ai bien envie de voir le Pierre Roland à la Garmin, qu'est-ce que ça va donner, parce que je pense qu'ou ça va tout casser, ou ça va tout péter, mais je ne vois pas trop la moitié. Quoi.
Apparemment, il va changer ses plans d'entraînement, apparemment, puisqu'il s'entraînerait.
Non, mais ça peut être vraiment intéressant, je pense. Après, on verra bien ce que ça donne, mais s'il faut, il va passer à 31 ans, c'est ça, non?
Ouais.
Je crois qu'il va passer un gros cap ce mois-là, s'il faut, je ne sais pas.
Non, mais Pierre Roland, c'est vrai que
il y a
eu cette interview qui a été reprise un petit peu partout avec Jonathan Waters qui dit qu'il s'entraînerait, comme 1975, ça c'est quand même un petit peu culotté.
On nous apprend partout, nous, d'aller de formation, etc., à faire des plans d'entraînement avec les capteurs de puissance, etc. Je vois pas Pierre Roland s'entraîner comme 1975, mais bon, pourquoi pas, je veux bien le lire, mais bon...
Non, mais ça va être intéressant. Même à la Sky, là, ils ont recruté ce qu'il fallait aussi. On sait que souvent, l'année qui suit, ça marche terrible. Donc, il y a de quoi faire, quoi.
Pierre Roland, qui est un peu plus jeune que prévu, quand même. Mais il a un peu plus de marge.
29 ans. Bon. 29 ans, les gars.
En tout cas, c'est vrai que ça peut être l'un des paris de l'année. Surtout, moi, j'ai envie de vous dire, par rapport à son Giro, hein, sa quatrième place au Giro il y a quelques années, ça peut être, bien évidemment, l'un des Français à suivre. T'as un Français à suivre, Johan? Un copain, je sais pas.
Comme Français, ouais, on va être Chauvin. Je pense Julien Loubet sur le Tour de France. J'aimerais bien le voir. J'aimerais bien le voir gagner une étape ou aller chercher le maillot de meilleur grimpeur, pourquoi pas.
C'est un de mes paris, moi aussi, c'est bien, on va bien s'entendre.
Vous êtes un peu chauvin, les gars.
C'est normal. Bon, moi, j'attends après.
Nous sommes réalistes.
J'attends des confirmations. Je le petit à la Philippe qui a fait une excellente saison. J'espère le voir aussi briller, au moins claquer une. Quoi. Voilà. Après, c'est sûr que les régionaux, on espère que ça va.
Le retour d'un Français sur le podium du Tour, c'est sûr que ça nous plairait bien, mais surtout c'est pas la reprise d'un Radio Vélo, l'ordinateur qui s'éteint, il a dit ça marche plus. Bon, bref.
Est-ce que Sagan va encore faire une grosse année?
Oui, voilà, une classique pour Sagan, une classique avec le maillot de champion du
monde.
Voilà,
Nicolas,
j'aimerais qu'il gagne Milan-San Remo dans un premier temps, et puis ensuite qu'il enchaîne avec peut-être Roubaix, ça sera dur, mais peut-être les Flandres, non?
Ouais, Paris-Roubaix, si
Liège aussi. En gros, qui gagne toutes les classiques. Qui fait le 10 classiques dans l'année. Peter Sagan,
il faut laisser les Ardennes.
Et après, il gagne 10 étapes du tour aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on attend Peter Sagan.
Sinon, sur Vélo Club, comme Français qui a attendu, Villermoz.
Avec Villermoz, c'est vrai que ça sera difficile, peut-être, sur les courses d'un jour.
Ouais, sur les courses d'un jour, on parle surtout, Flèche Wallonne, puisqu'il a fait 7e cette année, si je ne me trompe pas. Au Tour de France, il avait été éblouissant. Au Mur de Huy également, troisième, en partant en retard. Et également, certains l'attendent sur les Jeux Olympiques, puisqu'il a gagné la pré-course olympique cette année. Donc forcément, ça laisse envieux à faire. Certains espèrent que pour la vraie course, il va faire aussi bien.
J'attends également aussi un petit peu la confirmation de nos stars du sprint français, hein, parce que je t'avoue que je suis resté un peu sur ma faim concernant Nasser Bouhanni l'an dernier, et surtout Arnaud Démare. Le meilleur sprinter français pour l'instant, c'est Brian Coquard. Vu le résultat l'an dernier.
Bouhanni, je pense que Bouhanni a fait quand même...
Oui, mais bon, il n'a pas gagné finalement autant de courses que prévu l'an dernier.
Ouais, il a gagné plus que Cocard quand même.
Il a gagné plus que Cocard. Bon, enfin voilà, c'était pour faire réagir, ça marche.
Ouais, après, il a
non, bon, ouais, Cocard, attends, aussi, il a failli gagner les Champs-Élysées quand même. Là, il est pas mal, le garçon. Ouais, je sais pas, faisons parler un sprinter dans cette émission.
Il arrive derrière. Oui, il y a Bouda qui arrive, l'autre coureur de la DG aussi qui.
Saro.
Saro, ouais.
Ouais, faisons parler un sprinter dans cette émission. Non, pas Max, mais plutôt Yohan.
Vincent.
Bon, bien que les cuisses vont peut-être la faire, hein, je sais pas. Yohan, toi, quel est ton regard sur les sprinteurs français? C'est vrai que c'est une qualité que tu aimes bien, celle du sprint. Est-ce que pour toi, il y a un garçon plus qu'un autre à suivre pour 2016?
Oui, c'est sûr, le sprint, j'aime ça. Et je vois que cette année, quand même, Direct Energy se sont bien renforcés. Il y a Adrien Petit qui pourra lancer Brian. Il y a aussi Thomas.
Ouais.
Donc, même si Thomas Bouda et Brian veulent quand même se consacrer à la piste en 2016 pour les Jeux, je pense quand même qu'il pourra faire quelque chose. Et,
donc, vous mettez tous tombé dessus hein, tout à l'heure pour Cocard, mais lui, il confirme.
Non, tu as dit que Cocard a fait une meilleure saison que Bouhanni, qu'il avait plus gagné.
Bah, excuse-moi, mais bon, par rapport à ce qu'on pouvait attendre de Bouhanni, on pouvait attendre encore mieux. Je ne parle pas de Démarre qui n'a gagné que des kermesses, mais
deux étapes du Tour de Belgique, c'est facile.
Voilà, mais lui aussi, il a du boulot pour l'an dernier, pour l'an prochain, parce qu'il y a des petits jeunes qui sont derrière aussi chez la FDJ. Voilà, d'autres jeunes dans le sprint qui peuvent.
La FDJ, oui. Je pense à Lorenzo Manzin.
Ouais, Manzin qu'on avait parlé.
Pas Michael Mazin, mais Lorenzo Manzin.
C'est pas les mêmes.
Ça peut être ça, d'autres.
Comme sprinter, il y a Pouyès également qui revient pro.
Ouais, il faudrait pas qu'il nous en claque une belle. Hein. Mais non, mais on a quand même les jeunes, qu'on vient de citer. Et les Démarres de Bouhanni, c'est pas non plus des vieux.
Et non,
on a vraiment une armée de jeunes en gros. Moi j'attends encore les années qui suivent.
Il y a du boulot, les
gars. Que ça soit au niveau du tour, les barres d'épineau, que ça soit au niveau du sprint, on a plein de jeunes partout. Donc faut bien les encadrer et d'ici 3-4 ans, ça devrait faire mal, quoi, tout ça.
Donc la France peut jouer sur tous les tableaux. Est-ce que c'est ça aussi qui ressort nos chers amis auditeurs?
Peut-être hormis le coin de la montre.
Il
n'y
a que le chrono, ouais.
Mais sinon, oui, il y en a qui parlent Arnaud Démarre, vainqueur en solitaire de Paris-Roubaix. Parce que oui, Arnaud Démarre,
ça a été fait après les réveillons, ces trucs. Ouais.
Thibaut Pinot sur le podium du Tour, vainqueur du Tour parce qu'on est dans une année paire où c'est là où il marche. 2012,
année olympique.
2014.
Il y a une année sur deux.
Une année olympique en plus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont vouloir marcher pour aller aux JO. Les JO quand même dans une carrière, c'est vrai que certaines savent que Max, il n'y a pas beaucoup de chances d'aller aux JO. Hein. S'ils les font une fois, c'est déjà marquant pour leur carrière. C'est ton avis aussi, c'est quelque chose de prestigieux?
Je vais essayer, ouais, si je peux les faire. Moi, je suis pas contre. Hein. Après,
je ramène pas toujours toi.
Pas gagné, mais...
toi,
c'est
pas gagné. Ton niveau, mais non.
Je pense que les JO, c'est quelque chose. Que ce soit n'importe quel sport, que ce soit même dans le curling.
On le place au-dessus de tout.
Les JO, c'est au-dessus, c'est le Graal, quoi, les JO. Je pense que voilà, c'est ce qui est suivi par tout le monde. Même si champion du monde, c'est reconnu, on voit bien que les JO, c'est un événement tous les 4 ans. C'est quand même, c'est pas rien, quoi.
C'est pas rien. D'autres infos, Benjamin?
C'est pas des infos, quelques paris. Kotinkov qui dit qu'il va partir du cyclisme, il restera. Quoique maintenant, avec la guéguerre qu'il y a avec ASO, comme l'UCI, peut-être bien qu'il partira vraiment. Greg Van Avermaet qui a remporté enfin une belle, qui ne se contente pas que d'un podium.
Non, il en fait.
Pour reprendre ce dont avait parlé Max dans l'une des dernières émissions de l'année, quel coureur du Sud-Ouest passera pro cette année? Est-ce qu'il est en studio? Est-ce qu'il n'y est pas?
Ou la pression.
Déjà, c'est pas moi, c'est sûr.
C'est tout le bas qu'on lui souhaite, hein.
Mais oui.
En tout cas, le cru 2015 a été satisfaisant.
Oui.
Hein? Ah oui, non, mais ça pousse depuis plusieurs années.
Ça promet pour 2016.
Ah ouais, il y a de quoi faire.
Bon, on va pas tarder à faire la petite coupure pub avant de retrouver tout à l'heure Manu Hubert. Julien, un mot sur quand même ces championnats de France. On en a parlé tout à l'heure avec le vainqueur des juniors. Mais on s'attendait à une belle course. Mais de là à avoir une course épique et puis un vainqueur qui peut-être n'a pas eu le plus bel hiver de sa carrière en plus.
C'est sûr qu'il disait qu'il avait axé sa préparation de façon complètement différente par rapport à celle d'habitude. C'est vrai que le team Chazal Baye G4, le team de
Steve Chenel.
De Steve Chenel et John Gardry est venu un petit peu, faire un peu oublier l'incident mécanique qu'a eu Francis Mouret, parce qu'il y a eu un incident, il a eu une crevaison, donc il s'est vite retrouvé à la 10e place. Donc il y a eu un match à 3-4, on va dire, devant, entre Clément Venturini, Steve Chenel qui a fait un gros départ pour John Gardry. Et ils ont oublié un petit peu, je pense qu'il va un petit peu enterrer, je pense, le Francis. Sachant que Francis est quelqu'un de très très fort sur un terrain comme ça, et il a fait un sacré retour. Moi je l'ai vu en vidéo et vraiment très très fort. Et c'est vrai que ça se joue sur le final, ça se joue, mais ça se joue vraiment au métier, quoi. Vraiment, c'est un championnat, comme il le dit, qui gagne vraiment au métier, vraiment au détail de la course dans tous les endroits.
Il a été impressionnant, c'est vraiment aussi, je l'ai regardé.
Il était vraiment, ouais.
À mi-course, Venturini, on se demandait comment il allait être battu. Et puis on commence à voir Mouret qui reprend seconde, qui commence à doubler tout le monde, le commentateur même qui arrive.
Il le voit pas. On le voit rentrer au fur et à mesure, rattraper des groupes, le voit rattraper, et c'est vrai qu'il rentre. En plus, il est fort sur des parties comme ça à pied, et on le voyait même à pied, Clément Venturini, il prenait toujours 1, 2, 3 mètres. Il rentre vraiment très très fort, et puis je pense que quand mentalement Venturini va rentrer Mouret, je pense que déjà il prend pète morale, parce que toute la saison en fait dans les Coupes de France il est largement dominé. Il le voit pas dès le départ, il sait qu'il a crevé, il se dit dans sa tête ben c'est un adversaire à moins. Quand tu vois rentrer un gars derrière que toi t'es déjà à la case, tu dis finalement il fallait peut-être pas l'enterrer si tôt que ça, quoi, le père Mouret. Et finalement le père Mouret,
et puis quand il est arrivé, quoi, moi je pensais qu'il allait avoir besoin de souffler. Non, il est passé quasiment direct en tête sur la partie à pied, et il a jamais laissé le temps de souffler, quoi. Il est passé en tête, allez, je cherche pas à comprendre et je roule jusqu'à l'arrivée. C'était impressionnant.
Et puis il a poussé à la faute, il a pris toujours 2, 3, 4 mètres. Clément a fallu qu'il s'emploie pour revenir à chaque fois, donc une fois, deux fois, trois fois, tu le vois, puisque sur le dernier, quasiment à l'arrivée, quand il sort de la terre, et presque Venturini, il manque de tomber. Donc on voyait qu'ils étaient vraiment à la limite, quoi. Non, vraiment, c'est un des championnats qui était vraiment, que j'ai trouvé vraiment, ouais, vraiment, il y avait beaucoup de suspense, quoi. C'est vrai qu'on s'attendait vraiment pas à voir ce match-là. Quand je l'ai vu, bon, c'est vrai qu'au départ, on le voit devant, puis d'un coup, on le voit 10e ou 15e, on sait pas ce qui s'est passé, quoi. Je l'ai su que quand après il a été interviewé, qu'il avait crevé. Donc c'est vrai que tu te dis, bon, mais il a le coup. Puis en fait, quand après tu vois qu'il passe, il recoince à remonter, là tu dis, et puis quand il rentre sur. Ça a dû lui faire mal quand même.
Et est-ce que Venturini, il n'y a pas manqué à Janesson? On en parlait quand il avait signé chez Cofidis. Oui. Finalement, il n'a pas fait de cyclocross.
Mais est-ce que les équipes pro en général, il n'aura pas manqué des coureurs de cyclocross aussi, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a un peu de côté, les gars, quand même. Hein.
En parlant de coureurs pro qui a fait le cyclocross, mention spéciale à Quentin Jurecki qui est parti tout derrière, qui a fait une remontée monstrueuse également.
Spécialiste cyclocross. Oui. Attention, on va pas l'oublier. Il a passé qu'un an en équipe en Belgique. C'est pas n'importe qui, ouais. Quentin Jurecki. D'ailleurs, on devait l'avoir l'an dernier, puis on n'a pas pu l'avoir.
Tu le notes sur ton planning pour la semaine prochaine.
Et sacré, mais il part dernier quand même. Alors certes, ils n'étaient pas nombreux chez les élites, ça aussi. Ça, je voudrais qu'on y revienne un peu parce que.
Oui, juste après la pub. Après la pub, on en reparle un peu et après on appellera Manu Hubert à la demi. A tout de suite, ne bougez pas, vous êtes dans Radio Vélo.
C'est ta radio. Pop. Rock.
Sport. Matos, c'est l'émission pour les amateurs de vélo. À retrouver en podcast sur cetaradio.fr et le mercredi en direct à 19h. Radio Vélo, l'émission 100% cyclisme uniquement sur Ceta Radio.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la terre? Il est quelle heure au Guatemala? J'ai jamais pris de fusée.
De retour dans Radio Vélo, vous réagissez bien sûr sur les réseaux sociaux, le Twitter @RadioVélo31, la page Facebook Radio Vélo. Vous pouvez bien sûr tout au long de l'année nous envoyer vos petites contributions, vos petites idées d'interview. On salue nos plus fidèles auditeurs qui attendaient la reprise. Et donc, nous revenons un petit peu sur les championnats de France de cyclocross. On va avoir Manu Hubert dans quelques instants, le manager de l'équipe Fortuneo Vital Concel. Dont fait partie Francis Mouret, le champion de France.
Deux maillots de champion de France déjà dans l'équipe. Hein.
Et oui, deux, parce qu'il y a Steven Tronet aussi.
Exactement.
Qui a rejoint cette équipe. Un recrutement. un champion du monde aussi.
Espoir.
Espoir, bien sûr. Rappelle-nous qui c'est. et du coup, également, Benjamin, dans cette équipe, un très bon recrutement.
Oui, ça fait plusieurs fois que je le dis, c'est pour moi le recrutement qui me plaît le plus.
Kevin le Danois, Max, bien sûr.
Oui.
Bien sûr, Max fait l'émission, ça me fiche. Comme Lionel Chamoulo. Benjamin, revenons
un petit peu sur ça balance.
Non, un recrutement très intéressant. Oui, et puis si on a envie d'avoir Manu Hubert, c'est parce qu'il y a... l'équipe de la Bretagne a passé un cap, mais là, cette équipe Fortuneo Vital Concept a tout pour en passer un nouveau.
Oui, déjà même avec le recrutement, je pense qu'ils en ont passé un dans les mentalités pour les suiveurs, les spectateurs et les organisateurs. Parce qu'avec l'alchimie qu'ils ont créée avec cet effectif, avec des coureurs qui ont fait une bonne saison l'an dernier, avec des coureurs qu'on n'attendait pas là, comme Christian Kersorensen, parmi les équipes françaises, notamment chez les Conti Pro qui ont besoin des invitations pour participer aux courses World Tour, je ne vois pas les organisateurs se passer de cette équipe.
On
a envie de la voir et c'est un peu à l'instar de certaines autres équipes d'années précédentes étrangères. Alors je vais pas dire les noms parce que des équipes de Chaudière et j'ai pas envie de les associer à ça, des équipes qui vont animer les courses, les étapes en attaquant, parce que c'est une équipe quand on voit leur composition qui
Utarovic, Troné, Federigo, Kevin Le Danois, donc le champion du monde espoir, Jonathan Hiver, Julien Loubet, notre sudiste préféré, Jean-Marc Bidot, Francis Mouret, on l'a dit, Vachon, Sepulveda également qui est un espoir du cyclisme, Christian Kersorensen, Brice Feuillu, Boris Vallée, Arnaud Gérard, Fonseca, Jarier, bref, une équipe d'attaquants comme tu les aimes, Max.
Jarier, Paris-Roubaix, il a bien marché l'an dernier. Donc non, ils sont sur tous les terrains.
Qu'on la montre sprint, je vois pas où c'est qu'ils ne pourraient pas être présents.
Ils ont une belle équipe, surtout pour aller chercher des grosses échappées, que le mec finisse tout seul. Là, ils ont ce qu'il faut de ce côté-là.
J'espère qu'ils s'entendront bien, parce qu'il y a vraiment de quoi faire de belles stratégies d'équipe dans les terrains un peu vallonnés.
J'espère qu'il y en a qui ne vont pas crever, monter à les voitures, parce que ça va faire tâche encore.
Ça c'est le...
C'est le running gag.
Bon, déjà, deux maillots dans l'équipe, déjà. Je pense que trois maillots. Oui, trois maillots, c'est
Kevin
vrai.
Et Kevin
Lezard. Et oui, Max. Trois maillots, déjà, c'est pour le partenaire. Voilà, c'est hyper important, quoi. Donc, je pense que, à mon avis, les contrats pour les années prochaines.
En fait, il y a quatre maillots, parce que je crois que Christian Kersorensen est champion du Danemark.
Ouais, Royal.
Donc... Non, mais c'est vrai qu'encore une fois, on ne s'attendait pas à un tel recrutement. Ils ont bien recruté.
Oui, Nicolas.
Et on est de retour du coup avec Manu Hubert, le manager de cette équipe Fortuneo Vital Concept. Manu, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, très bien, très bien. Bonsoir.
Bienvenue en direct dans Radio Vélo. Et puis c'est de coutume, hein, ce début d'année. On vous souhaite une excellente année 2016.
Ouais, ça a bien commencé.
Est-ce qu'on avait besoin de le préciser, Manu ?
Oui, après ça, c'est vrai que c'est bien commencé. Francis Mouret, comme vous le savez tous, champion de France de cyclocross. Je crois que le but avoué en fin d'année pendant son recrutement, c'est réalisé le 10 janvier. Donc c'est de bon augure, une belle saison qui démarre. Maintenant, après, il faut aussi de très bons résultats sur la route. Ce que moi j'attends et aussi ce qu'attendent mes partenaires.
Et justement, ces deux nouveaux partenaires, donc Fortuneo et Vital Concept, du moins pour le nom officiel, c'est une étape également ça, de se démarquer du coup de la région Bretagne qui était là depuis le début, c'est ça Manu ?
Oui, alors c'est vrai que la région Bretagne, le conseil régional de la Bretagne était partenaire depuis 2005. Aujourd'hui, il n'apparaît plus dans les lignes, mais je tiens à signaler quand même que pour 80% du budget de mon équipe, c'est fait avec des partenaires bretons. En l'occurrence, les deux partenaires principaux, Fortuneo, qui fait partie du groupe Mutuel Arkéa. Ensuite de cela, vous avez Jean Floch, donc la société aussi qui est une forte identité bretonne et qui est elle partenaire depuis l'âge de 2005 aussi dans l'équipe, donc obligatoirement ça reste des partenaires à identité plus que bretonne, et on souhaite que ça dure comme ça, avec cette identité bretonne.
Qu'est-ce que vous dites notamment lors de l'intersaison, quand vous regardez en arrière, on imagine que vous pouvez que savourer le travail réalisé, et puis ce développement, on sait à quel point c'est difficile dans le cyclisme comme partout ailleurs, mais dans le cyclisme en particulier, on imagine que c'est très, très enthousiasmant, et ça motive pour continuer à avancer tout le temps, c'est ça Manu ?
Bien sûr, hein, à partir du moment où on a des partenaires qui s'engouffrent dans le vélo, puisque c'est quand même pas facile, hein, de faire venir aujourd'hui des partenaires. On l'a vu aussi avec notre ami Jean-René, hein, c'est toujours compliqué, ça se fait toujours au dernier moment. Et je crois qu'aujourd'hui, on est un peu en souffrance de quelques années un peu difficiles dans le cyclisme, et aujourd'hui, à nous de redorer le blason de notre cyclisme national pour justement attirer des beaux partenaires, comme aujourd'hui les partenaires de Fortuneo Bank avec Vital Concept aujourd'hui, qui sont très représentatifs de sponsors motivés pour être dans le cyclisme.
Julien, peut-être une question pour Manu.
Oui, bonsoir. Non, je veux juste revenir sur quand même ce fameux titre de Francis, où beaucoup de monde le pensait, le voyait un petit peu enterré. Vous attendiez vraiment à ce qu'il remporte ce week-end, ou vous pensiez qu'il ferait le podium et ça restait là?
Écoutez, si l'on fait un peu d'histoire, si on reprend par rapport au début novembre, quand il chute, c'est vrai que je me dis, tout va dépendre de son arrêt. Son arrêt a quand même été de 15 jours, donc c'est toujours compliqué, parce qu'une saison de cyclocross n'est pas aussi rattrapable qu'une saison sur route, et c'est vrai que ça va très très vite, ça s'enchaîne très très vite. Et Francis, à un moment donné, quand je l'avais au téléphone, je lui ai remonté le moral là-dessus, c'est que des fois, il avait quand même bien fait une préparation en amont, sur route, un peu de sa fin de saison, plus un bon début d'une saison de cyclocross. Je lui ai dit, peut-être que tu arrives en période où il fallait peut-être avoir un petit peu de répit pour mieux rebondir en mois de décembre.
Ouais, un mal pour un bien, quoi.
Voilà, c'est un mal pour un bien, et finaliser en janvier. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, je pense que, tout le monde a vu les images, ceux qui ont pu suivre le live sur Internet. Je crois que c'était l'homme du jour. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Venturini marchait très très bien. Mais je crois que sans la crevaison de Francis, je pense qu'il aurait été seul aux avant-postes à partir des trois quarts de la course. Donc je crois que le plus fort a gagné. Malgré sa crevaison, il a pu combler un retard plus d'une trentaine de secondes. Donc je crois que dans un championnat national, c'est toujours délicat de remonter. Mmh. Et Francis a su le faire, donc je crois qu'il n'y a rien à dire. Ça a été le plus fort du jour. Maintenant, comme je lui ai dit, il a le droit d'y croire jusqu'à la fin janvier, jusqu'au 31 janvier, jusqu'au championnat du monde, d'être présent et de pouvoir, dans un coin de sa tête, y penser. Même si le circuit de Zolder n'est pas très favorable à ses aptitudes.
Est-ce qu'il aura quand même la même liberté dans votre équipe de pouvoir faire... On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'équipes françaises ne privilégient pas forcément le cyclocross. Il aura toujours cette latitude-là, cette liberté de s'exprimer au plus haut niveau?
Écoutez, moi, oui. Tant que j'arrive à dégager un budget pour l'accompagner dans le cyclocross, je crois que oui. Moi, je crois qu'on doit montrer de l'intérêt. Marc l'a bien fait pendant une quinzaine d'années. À moi aussi de prendre un certain relais. La seule chose, c'est toujours ça, c'est que on se concentre sur une, on va dire sur la saison routière. Maintenant, après, c'est vrai que la saison de cyclocross nous apporte aussi de l'image, et je crois qu'on c'est à nous en tant que manager d'essayer de soulever aussi cette discipline, et puis surtout de les accompagner le plus loin possible.
Et c'est en tout cas ce qui est en train de se faire avec Francis Mouret. Du point de vue du recrutement, c'est vrai que Benjamin, le recrutement de l'équipe Fortuneo Vital Concept est plutôt séduisant. C'est ce qu'on se disait ces derniers temps. Comment ça s'est fait justement ce recrutement, Manu? Il y avait des profils de coureurs souhaités, ou ça s'est fait aussi au fur et à mesure des opportunités?
Non, je crois que ça s'est fait au fur et à mesure des opportunités. Après, j'avais quelques idées quand même en tête, et puis surtout des profils sur lesquels je voulais m'orienter. Donc, à partir de ce moment-là, après, à partir du moment où on a un fil conducteur dans les recrues, Et bien après, c'est de trouver les bons hommes. Après, moi aussi, j'attache énormément d'importance, bon, bien sûr, aux qualités physiques, aux qualités sportives. Ça, c'est indéniable pour la pratique et puis surtout pour avoir des résultats. Mais j'attache aussi énormément d'importance par rapport à la qualité de vie, par rapport à l'humain. Et ça, c'est une de mes prérogatives toujours dans mes recrues, dans mon recrutement, pour dire, voilà, cet homme-là, il ne va pas casser mon groupe, il ne va pas, on va dire, créer de la zizanie. Moi, j'aspire toujours à des gens qui soient cohérents et qui soient surtout sociables. Et surtout qui est un esprit familial. Ça, pour moi, ça c'est impondérable pour être recruté chez moi.
Benjamin, une question pour Manu.
Oui, bonsoir Emmanuel. Donc nous, à Radio Volo, on est dans le Sud-Ouest. Donc forcément, on voulait votre avis sur Julien Loubet, forcément, que vous avez recruté cet hiver.
Ben, je crois que Julien, il a frôlé la catastrophe. On va dire ça comme ça, il a frôlé la catastrophe, puisque je veux dire, il s'est retrouvé en tant que meilleur espoir, dans les meilleurs espoirs de sa génération, sur le plan français, même peut-être voire mondial. Je pense que Julien a un tempérament aussi gentil, c'est quelqu'un qui peut paraître un peu, on va dire, un peu lymphatique comme ça, mais qui a une grande pugnacité sur le vélo. Et donc, en fait, je pense que ces années dans l'équipe AG2R, il s'est un petit peu endormi. Il s'est dit, bon, bah, je suis là, c'est bien, je marche bien, je fais mon travail d'équipier, et je pense qu'il y a eu un endormissement. Et au moment fatidique, quand on dit, t'es plus renouvelé, là, il y a une cassure. Les équipes à l'extérieur, moi, j'avais bien vu que Julien Loubet était partant de chez 2R. Je me suis dit, il y a quand même eu un certain laxisme, on va dire, chez AG2R. Je me dis, non, pour l'instant, je recrute pas. Et puis, il est redescendu chez les amateurs. Donc là, je me suis déjà dit, là, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine volonté, une grosse volonté. Ensuite de cela, il est repassé professionnel au bout de 2 ou 3 ans à la Pomme Marseille. Et là, il a retrouvé l'Agnac. Et là, je me suis dit, maintenant, à partir du moment où je l'ai vu gagner devant Pierrick Fédrigo, je dis, celui-ci, il me le faut. Et donc, voilà un petit peu. Et je pense que Julien a fait son deuil de toute cette période un peu laxiste, et maintenant c'est un garçon qui a très faim. Il était en stage encore pendant une bonne partie de l'hiver à Font-Romeu, donc ça veut dire que c'est un garçon motivé, et je pense que vous pouvez l'attendre très précocement dans cette saison.
Max, une question pour Manu.
Oui, au niveau de la saison qui est prévue, le calendrier de course, on sait déjà qu'il y a des jeunes qui vont arriver, comme Elie Gesbert, un jeune. Est-ce qu'il y a d'autres places de prévues, ou c'est déjà fait, ou est-ce que ça sera en attente en fonction du début de saison? Parce que Elie Gesbert, c'est quand même pas n'importe qui.
Non, alors Elie, oui, ça faisait partie de mes prérogatives en tant que néo-professionnel, donc il passera pro à partir du 1er août 2016, et non stagiaire, hein, il sera professionnel au 1er août. Bien sûr, bon, comme vous le savez, je me suis affiché et je soutiens via justement le conseil régional de la Bretagne une équipe qui s'appelle le VCP Loudéa, qui sera en division nationale 1. Et donc là, sur cette réserve, je me suis engagé à prendre 2 coureurs à partir de début août en tant que stagiaire sur les 3 possibles. Donc je me laisse une petite latitude pour recruter en tant que stagiaire un autre coureur d'une autre DN, ou d'une autre DN, ou peut-être éventuellement un étranger. Sachez aussi que bon, j'avais quand même stagiaire Caio Godoy, qui est un très très bon grimpeur brésilien. Donc peut-être qu'il sera encore avec nous en tant que stagiaire, mais on va dire que à l'avenir, je veux m'afficher en disant mes recrues, ça serait bien qu'elles viennent uniquement du VCP Loudéac. Et ça, c'est pour moi aussi un de mes objectifs, pour justement contrecarrer que certains Bretons puissent partir à l'extérieur ou à l'étranger.
Max.
C'est un très bel esprit. C'est bon de, même si nous n'est pas breton, c'est bon de sentir qu'il y a des gens qui essayent de faire vivre la région, en fait. Donc, sachant qu'il y a beaucoup de supporters là-bas, c'est vrai que c'est intéressant, ce projet.
Comme on le sait tous, hein, la région Bretagne, c'est une terre de cyclisme, un vivier extraordinaire. Donc, moi, en tant que manager et patron de l'équipe phare bretonne, Je me dois, et puis j'aspire justement à ne pas laisser partir ces meilleurs Bretons, comme peuvent l'être éventuellement des garçons comme Valentin Madouas à l'avenir.
Peut-être pour terminer, avant de vous remercier Manu, une petite carte postale, savoir où sont un petit peu les coureurs. Est-ce que c'est déjà un petit peu éparpillé en ce 13 janvier?
Écoutez, là pour l'instant ils sont encore, on va dire, dans leur pénate. Ça ne saurait tarder qu'ils partent, qu'ils les quittent. Pour qui, pourquoi, c'est que à partir de vendredi, l'équipe qui part à San Luis s'envole de Paris pour San Luis, donc en Argentine. Ensuite de cela, le lendemain, c'est-à-dire samedi, partiront les coureurs pour le Tour du Gabon. Et vendredi aussi, en même temps que ceux de San Luis, partiront justement les coureurs qui partiront en stage à Cambrils-Parc, tout près de Salou et de Tarragone en Espagne. Donc il y a 6 coureurs en Argentine, 6 coureurs au Gabon et le reste sur les 23 de présents à Cambrils.
Bon, démarrage imminent alors pour cette saison route. Qu'est-ce qu'on vous souhaite du coup pour l'année 2016, Manu?
Écoutez, le maximum de choses. La santé déjà, hein, que mes coureurs aient la santé, ça c'est primordial pour faire du vélo, du sport. Et puis ensuite, eh bien écoutez, de gagner le maximum de courses, ça c'est ce que je leur souhaite, et puis ce que je nous souhaite aussi à tout l'ensemble de l'équipe. Puisque, bon, c'est vrai qu'il y a les coureurs, mais il faut aussi ne pas oublier qu'il y a un gros travail de la part de tous mes encadrants, que ça aille du directeur sportif au mécanicien, au patron de la logistique, à mon bras droit, au secrétaire administratif, comptable. Donc il y a un réel, c'est une réelle entreprise, et ça, c'est, je veux dire, à chaque victoire, chaque place d'honneur, c'est aussi une récompense pour tous ces gens-là.
Et oui, c'est vrai qu'on parle souvent des coureurs, mais il faut savoir qu'autour gravite un nombre important, quoi, comme ils viennent de le préciser, des hommes de l'ombre et qui font un gros travail pour que les coureurs puissent se performer, quoi.
Exactement. Aujourd'hui, ça affiche 46 personnes de salariés à plein temps autour de cette équipe, en comptant les 23 coureurs.
Bon, on vous souhaite une très bonne saison. On vous remercie, Manu Hubert, d'avoir pris quelques minutes pour passer dans Radio
Vélo. La saison,
que ça continue comme ça. Hein.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt dans Radio Vélo. Et c'était donc le manager de l'équipe Fortuneo Vital Concept, un concept en tout cas qui a tout pour fonctionner, et on lui souhaite une longue vie qui plaît, bien sûr. C'est un super état d'esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire la petite chronique de Claire, c'est ça?
Oui, c'était laquelle c'était simplement.
C'était laquelle? Celle que t'as pas encore entendue, Julien, c'est celle sur Anquetil, sur une pièce de théâtre qu'elle est allée voir du côté de Paris. Claire Bricogne, notre amie journaliste parisienne, partenaire de Radio Vélo. Pas partout, membre de la team, faut dire comme ça l'est, qui est allé voir la pièce de théâtre Anquetil tout seul et qui a rencontré notamment le metteur en scène. On revient dans quelques instants pour parler après du GSC Blenec Vélosport 31.
C'est une renaissance lorsque le rideau s'ouvre sur la scène du théâtre de l'Archipel à Paris. Jacques Anquetil est sur scène et décrit son rythme de travail, sa force de caractère hors norme.
Prêt d'aller dans un monde de peine. Seul j'ai le secret et me persuader que si je souffre tant, il n'est pas possible que les autres tiennent le coup. Si je souffre tant, il n'est pas possible que les autres tiennent le coup. Si je souffre tant, il n'est pas possible que les autres tiennent le coup.
La ressemblance entre le champion et Matila Mavirakis est frappante, accentuée par les jeux de lumière et la souffrance du comédien sur son vélo pendant la quasi-totalité de la pièce.
Je suis pas un sportif non plus, quoi. Je roule, moi, je fais du vélo, quoi. Mais déjà c'était un VTT, donc c'est pas du tout le même genre de truc. Mais je me fais des petits sprints comme ça, personnels, pour voir si je tiens le dépassement de la douleur quand j'ai vraiment mal aux jambes et que je me dis ok, je vais aller plus loin que mon mal, quoi. Voilà. Mais le doute, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Mais en fait, quand on est acteur, c'est la même chose. Enfin, je pense que l'entraînement d'un acteur et l'entraînement d'un sportif est à peu près le même. On doute avant. Il faut surtout pas qu'au moment où on fait notre boulot, enfin, c'est-à-dire au moment où on va présenter la chose, que ce soit faire une étape ou alors jouer une pièce de théâtre, si on doute à ce moment-là, c'est terrible, quoi.
Roland Guenoun, metteur en scène.
Qu'est-ce qu'il a, Jacques Anquetil, qui fait qu'aujourd'hui encore, il n'est pas suranné?
D'abord, comme le dit le texte, c'est un mystère. Personne, parce que moi je dis c'est un héros camusien au sens où ça reste un héros très moderne, dans la mesure où il s'est affranchi de, voilà, de son environnement. Il a mené sa vie comme il le voulait, au défi de la morale qui l'entourait, au défi des règles sportives. Il a défié à peu près tout. Et il n'a pas fait ça par, comme le dit Magne, il n'a pas fait ça comme, par provocation. Il a fait ça parce que c'était lui et qu'il voulait vivre comme ça.
La pièce est une adaptation du livre de Paul Fournel, Anquetil tout seul. Roland Guenoun l'a lu dès sa sortie en 2012. Immédiatement, il a eu envie de l'adapter par l'intermédiaire de trois personnages. Anquetil donc, rejoint par la comédienne Clémentine Le Bosset, qui joue l'envoûtante et sûre d'elle Janine, ainsi que ses filles, et Stéphane-Olivier Bisson, à la fois narrateur, journaliste, Poulidor, Darigade et le très marquant Géminiani. Géminiani, grande gueule, qui voulait changer le cyclisme avec Anquetil. Géminiani, Anquetil, un duo de tous les défis, de tous les excès, même celui de gagner en 1965 le critérium du Dauphiné libéré à 17h et d'enchaîner Bordeaux-Paris à minuit sur son vélo. Anquetil faillit abandonner. Guenoun et ses acteurs lui rendent sa dimension humaine.
Tu abandonnes ? Tu m'es tombé comme une carotte dans un bouillon. Ah ! J'en peux plus de ces paris stupides ! Je ne vais pas plus loin, trop dur, et puis devant, ils sont trop loin ! Sors de là ! Ta place n'est pas dans ma voiture, mais dans le camion balai ! Allez, où c'est gars, tu me fais passer pour un con, moi, chez Mignani, qui avait confiance en toi. Tu me trahis. Eh ben, je vais te dire, tu as raison, abandonne, vas-y, serre-moi la main, c'est la dernière fois.
J'ai froid, je suis pas dans la bagnole, moi, je me marre pas, j'ai froid.
Et les autres, tu crois qu'ils ont chaud, les autres? Un danseur de tambour. Je te croyais un homme avec des tripes, un champion. Mais là, t'es qu'un danseur de tango. Jamais j'aurais dû faire confiance à une gonzesse. Car tu n'es qu'une gonzesse, tu as qu'une gonzesse et rien d'autre.
La résonance qu'il y a aujourd'hui, je crois, c'est les prises de position qu'il a prises sur le dopage. C'est-à-dire qu'il a avoué, il a dit oui, on ne peut pas faire autrement. C'est les prises de position qu'il a eues dans sa vie affective. Il a une vie affective quand même très compliquée. Et encore, j'en ai coupé là. Mais je crois qu'il épouse la femme d'Alain, hein, qui est le fils de Janine. Donc c'est extrêmement complexe, extrêmement compliqué. Il a eu ce rapport à Poulidor qui était très complexe, et il a eu aussi ce rapport au public qui est très particulier et qui révèle aussi, et c'est un peu ce qui est dit dans le texte de Fournel et ce qu'on dit aussi, qui révèle bien toutes les fêlures du public français qui aime bien détester, qui aime, enfin, cette ambivalence qu'il y a, hein, sur on aime les champions, mais quand ils gagnent, on les aime pas trop, on les trouve prétentieux, on préfère un peu le perdant. C'est très particulier, très très particulier. Et ça, je crois que c'est porté par l'histoire de ce personnage, par l'histoire de ce sportif. C'est-à-dire qu'en fait, les gens le connaissent pas. Les jeunes me disent, qu'est-ce que c'est, je connais pas Anquetil. Ils ne le connaissent pas. Les jeunes qui s'intéressent pas au cyclisme ne le connaissent pas. Hein. Quand je dis les jeunes, c'est les trentenaires ne connaissent pas Anquetil. Ils ont connu un peu Hino. S'ils ne sont pas attachés au sport cyclisme, il est bon. Et en même temps, ceux qui sont venus sans connaître Anquetil ont trouvé justement des résonances, enfin, ont été intéressés par ce qui était raconté là, parce qu'au-delà du champion, il y a des choses qui sont dites et qui sont extrêmement actuelles et contemporaines. Voilà.
Vous avez jusqu'à samedi soir pour aller voir Anquetil tout seul au Théâtre de l'Archipel à Paris. Ensuite, il faudra attendre septembre pour la reprise.
Nicolas.
Et de retour d'un radio vélo après le magnéto de Claire Bricogne, qui a été voir la pièce de théâtre Anquetil tout seul. Vous retrouverez ça dans le podcast. On attaque la minute régionale avec, eh bien, chaque semaine, un club de Midi-Pyrénées à l'honneur. Et donc, Mélanie, cette semaine, on commence par le GSC Blagnac Vélosport 31. Pour cela, nous avons en studio Johan Verardo, qui est avec nous depuis le début de l'émission, et au téléphone, le directeur sportif Cathy Moncassin. Cathy, est-ce que tu nous entends?
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir et bienvenue en direct d'un Radio Vélo. Merci de prendre quelques minutes pour bien présenter votre équipe en direct. Mélanie, du coup, on commence ce tour de Midi-Pyrénées avec Blagnac.
Oui, ben, on va commencer avec le meilleur club Midi-Pyrénées. Ils ont fini 8e, 9e, 7e de DNE. Donc voilà, ouais. On va parler un peu de l'effectif 2016 et des courses que va faire le club.
Cathy, alors, où en est la préparation? On entre dans le vif du sujet là, d'ici quelques semaines.
Et oui, ça y est, on va bientôt partir en stage de préparation en Espagne, là, à la fin du mois. Et avant ça, on a fait un stage d'oxygénation à Luchon Superbannière, comme tous les ans, qui est partenaire aussi du club. Et juste avant ça, on a fait le stage d'intégration où on a accueilli les petits nouveaux.
Les petits nouveaux, alors justement, qu'est-ce qui change depuis la saison dernière du côté du GSC Blagnac Vélosport 31?
Alors, ce qui change, ben, pas grand-chose, hein, parce qu'on reste un petit peu sur le même programme. Il y a juste des nouveaux arrivants. Donc, cette année, on a Alexis Guérin, donc, qui descend de chez les professionnels, Greenway, la réserve de Etix Quickstep. Voilà, avec son ami Lucas Destan. Et après, on a d'autres petits jeunes aussi qui arrivent, notamment nos petits juniors qui sortent de la réserve pour intégrer l'ADN1, hein, donc Simon Lullier et puis Hugo Ginesté et Tristan Célivier. Quoi, Hugo n'était pas junior, mais bon, c'est vrai qu'on l'a depuis qu'il est tout petit. Donc, pour nous, c'est un vrai plaisir de faire franchir le Rubicon à nos jeunes espoirs.
Du côté de nos studios, Johan Verardo, Johan, qu'a-t-il dit les grandes lignes de la saison dernière à reprendre avec quelques renforts. Comment tu le vis, toi, cette intersaison? C'est un petit peu ça l'état d'esprit?
Oui, le but, ça va être quand même, on a fait 7e de la Coupe de France en 2015. Le but, c'est toujours de faire mieux. Donc, on va essayer de faire mieux que 7, essayer de rentrer dans le top 5. Et je pense qu'au niveau du recrutement, on a regardé par rapport aux courses de Coupe de France, c'est quand même assez plat ou un peu vallonné, mais ça risque d'arriver souvent au sprint. Et on a un beau recrutement sur ça avec Sylvain Blanquefort, comme disait Cathy, avec Lucas Destan.
Julien?
Salut Cathy, comment ça va? Meilleur vœu à tout le monde. Hein.
Salut Julien, merci à toi et à toute l'équipe.
Ouais, y a cette fameuse épreuve de sur piste qui est obligatoire cette année là.
Oui. Et oui, le 3 août.
Au Mans.
Ça sera sur la piste du Mans. Ouais.
D'accord, donc ça c'est hyper important pour la stratégie, pour le marquer les points pour la Coupe de France.
Ah ben oui, hein, cette année maintenant on y va falloir y rentrer à fond dedans, hein, puisque ce n'est plus facultatif. Donc on va essayer de préparer ça, mais bon, c'est vrai que c'est un peu limité parce que c'est juste deux coureurs par équipe, donc. Mais bon, on a ce qu'il faut au sein du club, ça devrait bien se passer.
D'accord, donc c'est deux coureurs qui doivent participer à cette épreuve-là, et qu'est-ce qu'il y a comme discipline?
Alors je pense qu'il y a une course au point, il doit y avoir une américaine, peut-être un scratch, après je ne les ai pas sous les yeux, mais bon, c'est des épreuves plutôt de type peloton, quoi.
D'accord.
Il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas ce genre d'effort.
Et est-ce que vous fixez des objectifs avec votre équipe, avec vos coureurs, Cathy?
C'est vrai que pour la première année de DN1, on finit 7e, donc c'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à une aussi bonne place. Donc, bien évidemment, on a toujours envie de faire mieux, donc un top 5 serait super, quoi. Mais surtout que je pense qu'on a vraiment l'équipe pour le faire, donc ça devrait bien se passer.
Vous aimeriez là aller sur Basque, donc du début février?
Voilà, tout à fait. Donc là, on part en stage en Espagne et puis on enchaîne avec l'Essor Basque. Et puis juste là, il y a la première manche de Coupe de France de DN1 à Aix-en-Provence. Donc il y aura une partie de l'équipe qui se dirigera vers ce premier objectif.
La première course de la saison, Cathy, du coup, c'est pour...
L'Essor.
L'Essor Basque. Hein.
C'est l'Essor. Ouais, c'est l'Essor Basque. Bon, oui. Après, bien évidemment, il y aura Montastruc et bon, tout le programme habituel, quoi.
D'accord, Johan, pour préciser un petit peu, toi aussi, dès le début de saison, l'objectif, c'est d'être en forme avec les copains.
Oui, c'est sûr. Bon, moi, personnellement, je pense qu'à l'essor, je ne serai pas comme j'étais en 2015, mais collectivement, c'est sûr qu'il faudra, il faudra être là pour la gagne et dès la première course.
L'essor, c'est quelque chose que vous fixez comme objectif, parce que bon, on sait que l'essor est assez important. Vous allez avec ambition ou pour préparer la saison, Cathy?
Oh ben nous, en général, on va toujours sur les courses avec ambition. Hein. C'est rare quand on prend le départ d'une course juste pour se préparer. Hein. Voilà, je veux dire, toutes les courses sur lesquelles nous nous rendons, voilà, quoi, on y va pour gagner, hein, c'est sûr. Oui.
Johan, est-ce qu'il y a un coureur à suivre alors dans votre équipe plus qu'un autre? C'est pas facile comme question, hein, de parler des copains.
Non, c'est sûr.
C'est toi qu'il va falloir suivre, peut-être.
J'espère. Hein. J'espère. Si on doit me suivre, ça voudra dire que je marche.
Enfin, pas toi, Nico.
Non, pas moi.
Ça sera bien. Mais oui, je pense quand même que Romain Campis marchera mieux qu'en 2015 encore, et déjà qu'en 2015 il marchait mieux qu'en 2014. Je me demande
du coup l'essor, ça va encore faire très très mal.
Ouais, ça va faire mal, je pense. Et Flavien Morlaix aussi, qui a fait une très bonne fin de saison, et qui était un de nos leaders en fin de saison, et je pense qu'il sera là, en début de saison aussi.
Peut-être Cathy, un mot sur notre invité en studio, sur Johan, si tu devais le présenter en deux mots.
Ah ben Johan, avec ce qu'il nous a fait l'an dernier, c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance parce qu'il a eu une maladie au mauvais moment qui hélas l'a un peu perturbé sur la fin d'année. Bon, il a fait quelques tours de roue donc avec l'équipe de Marseille La Pomme, où il a fait un très beau tour, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais par là-bas en Chine, à l'étranger, où il a bien marché, et c'est vrai qu'il va être surveillé de près cette année. On espère vraiment qu'il va rejoindre ses amis Loïc Chétou et Julien Loubet au niveau supérieur.
Voilà, parce que c'est aussi ça le GSC Blagnac, ce sont ceux qui sont désormais chez les professionnels. Cathy, on continue à les regarder de très près, j'imagine.
Ah oui, alors, ben, on est fiers d'eux, hein. C'est sûr que c'est très valorisant pour un club, et puis c'est vrai que tout derrière, il y a quand même une école de vélo, hein. Il y a une école de vélo, il y a des équipes de jeunes, il y a des juniors, et donc c'est vrai que c'est important pour tout le club. Ce sont les modèles.
Pour terminer, Cathy, avant de te remercier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cette nouvelle saison ?
Ah ben, qu'on ait encore des coureurs qui passent chez les professionnels, et puis faire une belle saison. Faire une belle saison. Voilà. C'est idéal. Et puis voilà, que tout se passe bien, que tout le monde soit en bonne santé et puisse s'exprimer à son meilleur potentiel. Voilà, c'est très important aussi.
Merci Cathy d'être passée dans Radio Vélo, et puis à très bientôt alors.
À bientôt, merci beaucoup.
Salut,
merci.
Ciao, ciao.
Au revoir, Cathy. C'était Cathy Mocassin, donc directeur sportif du GSC Blagnac Vélosport 31. Un petit mot pour terminer, Johan, donc sur cette expérience. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton stage avec la Pomme Marseille, mais on imagine super enrichissant. Et donc, ce déplacement en Chine, qu'est-ce que tu en retiens ?
J'en retiens que c'est pas du tout le même niveau. C'était vraiment dur, surtout après une reprise de maladie où j'étais pas à mes meilleures sensations. Après, j'ai beaucoup appris avec des coureurs quand même d'expérience. Il y avait dans l'équipe Siske Vicius, Julien Alfares qui était à Cofidis, Di Gregorio aussi. Donc quand même, c'est des bons mecs, et ils m'ont beaucoup appris sur ce mois en Chine. Oui.
L'ambiance était bonne dans l'équipe ?
Oui, elle était très bonne. On était pendant un mois tous ensemble, et ça s'est vraiment bien passé, on a bien rigolé.
Julien, qu'est-ce qu'on a rajouté ? C'est bon, on est complet. On remercie Jean pour ces petites infos. On n'a pas eu le temps aujourd'hui. Programme extrêmement chargé. Un de nos auditeurs, Philippe, qui nous envoie un message comme quoi, dans sa catégorie, lui, en FSGT, il y a la finale du championnat Haute-Garonne de cyclo-cross à Revel-Saint-Ferréol le week-end prochain.
Et 8 semaines avant les championnats nationaux. Puisqu'il y aura les championnats nationaux fin de mois de janvier.
Bien évidemment, n'hésitez pas aussi à partager vos événements. Julien, non, ça serait trop long de citer un petit peu. Tout ça, Max, pour finir.
Le championnat du monde.
Championnat du monde.
Déjà Coupe du Monde à Lignières. Déjà pour commencer. Coupe du Monde à Lignières en France. Et après, il y aura le championnat du monde.
Mais le week-end prochain, c'est pas le championnat du monde.
Ah non.
Alors, j'ai pas lu le.
Sauvage, des fiches pour la semaine prochaine.
Du coup, le cyclo-cross, c'est pas pour moi, quoi.
Elle était bonne, la bière.
On continue à gérer les stocks.
Alors, ce week-end, après le championnat de France, il y a le match de Coupe du Monde qui va se dérouler à Lignières.
Moi, je veux qu'on enchaîne direct sur.
Non, fin de mois.
Bon, on dira que c'est champion du monde.
Et pour nous, les Français, oui, ça, c'est un champion du monde. Donc, ça va se dérouler en France, à Lignières. Donc, les équipes de France, il y a des équipes A et B. Donc, il y aura beaucoup de jeunes qui seront là présents. Donc, on espère les voir briller, quoi.
Non, j'avais pas fait le rapprochement, mais j'étais à bloc.
Non, mais c'est
du coup, je ferai 6 heures au lieu de faire 4 heures. C'est
tu peux rouler, tu peux y aller pour rouler.
Allez, on va refermer ce chapitre. Merci, Johan Verrado, d'être venu jusqu'à notre studio de blog pour passer cette émission. Ça a été quand même.
Ouais, c'est pas mal.
On est mieux là que sur le vélo, ou
pas pareil. Toutes les bières que je vois, oui.
ça se passe bien évidemment. Le secret de la radio, c'est de ne pas voir ce qu'il y a sur les tables. Bon, on te souhaite une très bonne saison. En tout cas, on n'hésitera pas à te suivre.
Non, juste pour donner les places des juniors et cadets au championnat de France, parce qu'on n'en a pas parlé. Audrey Mathieu finit 15e chez les dames juniors. Delino Plat, 12e. Fabien Tocaven, 60e. Chez les cadets, Émile Faramont fait une très belle 10e place. Et Nathan Van de Piet termine 16e. Théo Cressens a abandonné. Voilà.
Merci Mélanie, merci à toutes et à tous. Max, tu voulais rajouter quelque chose pour notre invité ?
La piste à Bordeaux.
La piste à Bordeaux.
Oui. La victoire de
Rémi Vérardo.
Voilà, c'est la famille, c'est la famille.
La suite.
La suite. Merci Johan en tout cas d'avoir partagé ces 7 heures avec nous. À très bientôt dans Radio Vélo.
Merci,
au revoir.
Merci, ciao.
La vie là, Inch'Allah, car la route.